Bonjour, c'est Lucie. Vous écoutez l'émission d'information locale qui s'apprête à débuter. Au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, voter au budget participatif départemental avant le 30 juin. Une interview avec deux chercheurs pour annoncer une rencontre internationale sur le numérique et le développement durable. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, un reportage au tribunal judiciaire de Rennes pour écouter l'alerte du syndicat de la magistrature. Et puis, recommandation, c'est de participer à la fête d'anniversaire de Brésicop. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Allez, on commence avec l'info du jour. Depuis le 1er et jusqu'au 30 juin, les Brétiliens peuvent voter pour leur projet favori dans le cadre du budget participatif départemental, une enveloppe de 2 millions d'euros consacrée à des projets d'habitants. Pour ce qui est une première édition, 306 propositions ont été déposées et après une analyse de faisabilité par les services du département, 131 projets ont finalement été retenus. Ils devaient correspondre à une dépense d'investissement sans comprendre d'artificialisation des sols et concernant les champs des solidarités, de l'environnement, des mobilités durables ou encore de la culture. C'est désormais le moment du vote et ça se passe en ligne sur la plateforme jeparticipe.ille-et-vilaine.fr. La seule contrainte, c'est qu'il faut avoir plus de 16 ans, on doit voter pour 3 projets et à noter que le nombre de votes recueillis n'est pas visible pendant toute la période de vote pour mettre tous les projets sur un même pied d'égalité. Pour vous donner quelques exemples, sur le pays de Rennes, on trouve par exemple un projet de minibus pour développer le handi-judo et le haut niveau féminin, la troupe d'improvisation moiséenne qui souhaite se développer en territoire rural, ou encore un projet d'éco-volontariat et de refuge de biodiversité dans un lieu qui s'appelle l'Oasis près d'Assigné. Les résultats du budget participatif, eh bien, ils seront à découvrir début juillet. Pour chacun des 6 territoires, les projets qui auront obtenu le plus de suffrages seront retenus dans la limite de 333 000 euros par territoire et le développement des projets, il commencera ensuite au mois de septembre. Allez, après l'info du jour, c'est l'heure d'une première interview. Benoît Combemal et Anne-Cécile Orgerie, bonjour.
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 Je vous présente, vous êtes alors Benoît, enseignant-chercheur à l'Université de Rennes, et Anne-Cécile, vous êtes chercheuse au CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, et vous êtes tous les deux membres de l'IRISA, l'Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires. Vous coordonnez, j'imagine que vous êtes plus que deux pour coordonner cet événement, du lundi 5 au samedi 10 juin, une semaine dédiée au numérique et au développement durable. Ça se passe à Rennes, alors sur plusieurs lieux, mais essentiellement sur le campus Beaulieu, notamment du côté du Diapason pour la programmation off. Il faut expliquer que cet événement, il a un passif, c'est un congrès international qui a plusieurs éditions derrière lui.
Tout à fait. Alors, ICT Forest, c'est une conférence internationale qui est organisée tous les ans dans un pays différent. Et en 2023, donc c'est la première fois qu'elle vient en France et elle est donc organisée à Rennes. Avant cela, elle a été organisée plusieurs fois en Europe, mais également plusieurs fois en Amérique du Nord, dont surtout au Canada.
Combien de personnes vont participer à la partie plutôt programme de recherche durant la semaine ?
Alors le programme de recherche, ça va réunir à peu près 200 personnes qui vont être là toute la semaine pour discuter à travers des événements de différentes natures des derniers résultats de recherche qu'il y a eu sur ce thème du développement durable et du numérique.
Il faut dire qu'il n'y aura pas que des chercheurs, mais plein d'autres types d'acteurs participant à cet événement ?
Alors tout à fait, sur le programme de recherche, on a principalement des chercheurs, mais également pas mal d'industriels. On a à peu près 25% d'inscrits qui viennent du milieu industriel. Et puis en plus de ça, donc on a la programmation off qu'on reparlera peut-être après.
Ce qui attend les participants sur la partie programme de recherche, ce sont 5 jours essentiellement donc d'ateliers, de présentations académiques et puis de conférences. Vous avez parlé d'enjeux liés au numérique et au développement durable. Comment est-ce qu'on pourrait présenter les plus grands enjeux du moment aux auditeurs sur ces sujets-là ?
Alors les enjeux, ils sont de deux types, hein. Ils sont dans un sens comment le numérique peut aider à résoudre certaines des problématiques environnementales et plus largement du développement durable. Donc comment le numérique peut être une solution pour certains de ces problèmes et est-ce qu'il peut l'être ? Et dans l'autre sens, comment évaluer les problématiques environnementales liées au numérique ? Donc, au cours de ces différentes présentations, on va aborder différents thèmes liés au numérique. Donc, la consommation d'énergie du numérique, tout ce qui est autour du streaming vidéo, de la 5G, de l'intelligence artificielle, des analyses de cycle de vie, notamment logiciel, et puis toutes les autres problématiques de l'autre côté, sur l'obsolescence, et puis comment, jusqu'à de la sobriété. Et comment la numérisation des différents secteurs, est-ce que c'est positif ou négatif d'un point de vue développement durable ?
Est-ce qu'on peut donner un exemple dans le champ des solutions, de quelle façon le numérique peut avoir des vertus qui peuvent servir en contexte de changement climatique ?
Alors déjà, ça sert pour modéliser ces changements climatiques. Il y a eu beaucoup de modèles qui se sont appuyés sur des outils numériques pour pouvoir évaluer et donc avoir des prédictions pour pouvoir savoir quoi faire et surtout à quelle échelle le faire. Donc ça, c'est un des premiers volets. Le numérique permet également beaucoup d'optimisation, et notamment lié à de la communication quasi temps réel sur des systèmes complexes, des systèmes qui sont géographiquement très répartis. Et on peut par exemple penser au réseau électrique, comment le piloter de manière intelligente pour qu'il soit plus optimisé.
Dans la programmation, on retrouve le terme de décroissance qui apparaît. Il se trouve que durant la semaine, on retrouvera The Shift Project qui sera présent pour une présentation, un projet qui a été rendu célèbre par l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, qui est très médiatique et qui défend à sa façon la décroissance. Est-ce que dans le secteur du numérique, il y a encore un tabou à parler de décroissance ? Alors, on parle de logiciel vert, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que verdir le numérique, ça suffira pas, qu'il va falloir qu'on revoie tous la place qu'il prend dans notre vie ?
Tout à fait. Donc effectivement, dans ce champ de recherche-là, on a l'habitude de distinguer trois grands domaines. Donc le premier que je mentionnais au début, c'est-à-dire essayer de mesurer déjà la consommation des outils informatiques, du logiciel, du matériel. Donc ça, c'est un premier champ qui est important pour essayer de faire un bilan actuel et puis des prévisions. Le deuxième champ, c'est sur tout ce qui est efficacité énergétique, donc rendre les systèmes le plus efficaces possible, c'est-à-dire calculer autant, mais avec moins de consommation d'énergie, de ressources primaires, etc. Et le troisième champ, c'est vraiment la sobriété. Et la sobriété, ça veut dire changer les usages. Donc parler de décroissance, parler de low-tech, parler de tout un nouveau champ entier disciplinaire dans lequel, effectivement, on va questionner les usages pour essayer de réduire les impacts environnementaux du numérique.
L'événement là que vous coordonnez, donc ICT4S pour International Conference on Information and Communications Technology for Sustainability, c'est comment dire un événement essentiellement sur le programme de recherche qui comprend des chercheurs. Comment est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs à quoi ça sert finalement d'organiser un tel congrès ? C'est avant tout un temps d'échange entre professionnels. Est-ce que ça a des ambitions fortes ? Et puis quel est le poids de la recherche face aux entreprises et aux géants du numérique ?
Alors c'est effectivement un moyen pour les chercheurs de se partager les derniers résultats de recherche qui ont été réalisés au cours de la dernière année. C'est également un moyen d'échange avec les industriels, d'une part pour que les chercheurs puissent comprendre les vraies problématiques que peuvent rencontrer les industriels en pratique, et puis par ailleurs essayer de transférer les dernières connaissances qui ont eu lieu dans le domaine de la recherche auprès de ces industriels-là pour qu'ils puissent ensuite les mettre en pratique dans leur développement au quotidien.
Et il y a aussi des élus qui seront présents. Est-ce qu'il y a une forme de mission un peu plaidoyer, le mot est sans doute trop fort, mais en tout cas d'apporter ces informations-là plutôt à l'échelle politique ?
Alors tout à fait, mais ça c'est plutôt le rôle du off-programme que l'on rajoute au programme de recherche. Donc le off-programme c'est quoi ? C'est tout un ensemble d'événements satellites à cette conférence dans lequel on va essayer justement de coupler différentes communautés qui ont pas souvent l'occasion de se rencontrer. Alors on a parlé des chercheurs et on a parlé des industriels, mais il y a également les pouvoirs publics que vous venez de citer, les décideurs, mais également les étudiants et les artistes. Et donc il y a tout un ensemble d'événements qui essayent de réunir ces différentes communautés pour réfléchir sur ces problématiques de développement durable et de numérique.
Ce off, il est donc ouvert au grand public. Ça se passera surtout au Diapason, sur le campus Beaulieu, même s'il y a des propositions, notamment au centre-ville. Il faut le préciser, la programmation, elle est en anglais, tout comme ce qui se passe le reste de la semaine, puisqu'il y a un public international, c'est ça. Il faut parler anglais pour pouvoir venir donc au off.
Alors tout à fait, vu qu'on a des participants internationaux, tous les événements seront en anglais. Toutefois, donc tous les événements du Off-Roram sont ouverts au public et gratuitement. Ils font lieu à une billetterie sur laquelle il faut s'enregistrer, mais par contre c'est gratuit et on peut s'enregistrer individuellement aux différents événements. Et donc justement, ce programme, il comprend dès le lundi un débat donc qui aura lieu en centre-ville au Delirium en soirée pour débattre des questions de développement durable et d'open source. Et ensuite, tous les autres événements auront lieu au Diapason sur le campus de Beaulieu de l'Université de Rennes. Donc à commencer par le mardi matin, un keynote du Shift Project.
Donc un keynote, c'est une forme de présentation ?
Un exposé invité, effectivement, un peu plus long que les autres exposés qui ont lieu au cours de la semaine. Donc c'est un exposé qui dure une heure et qui vient présenter tout un champ un peu large, bien précis. Et donc le Shift Project en particulier vient parler des problématiques économiques en lien avec le développement durable et les grandes entreprises du numérique.
Ça, ce sera mardi 6 juin à 9h, donc le matin, sur le campus de Beaulieu au Diapason. L'autre keynote, l'autre exposé face au public, c'est en compagnie d'un invité local, puisqu'il est de la région. Il s'agit de Jean Jouzel, un ancien du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il sera donc présent jeudi 8 juin, toujours à 9h au Diapason. Il aura quoi comme thème d'exposé ?
Alors tout à fait, Jean Jouzel, c'est un glaciologue du CEA qui a été vice-président du GIEC.
CEA, c'est le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
Et en particulier, il a remis auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche un rapport il y a un an et demi sur comment intégrer les problématiques de développement durable dans l'enseignement supérieur. Et donc il vient nous présenter ses propositions qu'il a faites, et en particulier donc comment prendre en compte ces problématiques de développement durable dans les différents enseignements que l'on donne au sein de l'université.
On poursuit le programme. En début de semaine, je note aussi, en plus de la soirée au bar du Delirium Café le lundi soir, un format plutôt quiz le mardi également en soirée. Et puis, deux propositions artistiques, ça mérite d'être noté, sous forme de performance. Il y a une performance le mercredi, on peut peut-être s'arrêter sur celle-ci. Ça se passera à 21h avec un collectif qui, je crois, vient de Paris.
Alors, un collectif qui est plutôt européen, il y a à la fois des Parisiens, donc des Français, mais également des Allemands, et il y a même une personne du Canada au sein de ce collectif, et ils viennent effectivement réaliser une performance dont le but est principalement d'interagir avec l'audience et d'essayer de stimuler un certain nombre de débats entre l'audience et ce collectif d'artistes.
La deuxième performance artistique, elle aura lieu le jeudi 8 juin à partir de 16h. Ça se passe toujours au Diapason.
Alors la deuxième performance artistique, elle se focalise plutôt sur la culture de l'excès, avec quelque chose de très visuel autour de la culture de l'excès dans l'industrie du vêtement. Et ensuite, une déclinaison de cette même problématique de la culture de l'excès dans tout ce qui est informatique, et plus particulièrement autour des télécommunications, et on pense directement donc au téléphone mobile et au smartphone que l'on change de plus en plus souvent et qui pourtant nécessite plein de ressources à la fois pour être fabriqué mais également pour être utilisé et enfin pour être recyclé. Et donc il y a une sensibilisation autour de cette culture de l'excellent.
Donc ça, c'est une performance artistique à découvrir le jeudi 8 juin à partir de 16h. Une question pour les deux chercheurs que vous êtes, c'est une habitude de faire cohabiter le champ artistique et celui de la recherche, ou ce sont des expériences assez récentes ?
Alors c'est des expériences assez récentes, ça ne veut pas dire qu'elle est unique non plus. On n'a pas souvent cette occasion-là, ceci dit on essaye de le faire de plus en plus. Au sein de l'ERISA, donc le laboratoire d'informatique de l'Université de Rennes, il y a plusieurs événements qui sont organisés au cours de l'année, pas forcément sur le thème du développement durable, par exemple autour des sciences et de l'art, ou de l'informatique et de la musique, des événements qui sont organisés avec une ouverture au grand public. Donc c'est de plus en plus important qu'on organise ce type d'événement-là, et on espère donc à travers ICT4S participer à ça sur le domaine du développement durable.
On en profite pour le dire, il y avait un hackathon prévu le vendredi qui finalement a été annulé, mais on peut annoncer une table ronde en compagnie d'élus, si j'ai bien compris, qui se déroule le jeudi 8 juin en fin d'après-midi. Combien d'élus seront là et pour discuter de quel sujet ?
Alors, parmi les panélistes, nous aurons des élus, effectivement, mais également des représentants du milieu industriel, soit industriels eux-mêmes, soit des représentants de pôles de compétitivité qui représentent donc l'ensemble de ces industriels-là, et enfin des représentants de la communauté académique. Le but était vraiment de mettre à la fois des élus, des industriels et des chercheurs sur une même table ronde et de voir leur point de vue décliné sur les différentes questions en fonction de ces différents milieux desquels ils viennent.
Donc ça, c'est pour la table ronde organisée plutôt en fin de semaine.
Juste peut-être à rajouter que donc si on est à peu près 200 au cours du programme de recherche, on va être plutôt entre 400 et 450 sur tous les événements du off-programme qui auront lieu au Diapason. On espère donc plein de personnes du grand public et plus particulièrement de la région rennaise de venir se joindre à nous, s'inscrire auprès de la billetterie du Diapason, et on espère qu'on sera les plus nombreux possibles pour profiter de ces événements-là.
On imagine que vous attendez également un public étudiant nombreux de domaines qui peuvent être en lien avec ces thématiques du numérique et du développement durable en étant sur le campus Beaulieu.
Tout à fait, et pas que. Je pense que tout étudiant, quel que soit son domaine d'apprentissage, est intéressé par ces questions de numérique et de développement durable, parce que je pense que tout un chacun, tout citoyen, fait face en ce moment à la numérisation de tous les domaines, à la fois dans sa vie personnelle et de sa vie professionnelle. Et je pense qu'on a tous de plus en plus cette inquiétude liée au développement durable et au réchauffement climatique en particulier. Donc on espère avoir des étudiants, et pas que des domaines de l'informatique et des sciences environnementales, mais globalement de tous les domaines.
Je vous représente tous les deux, Benoît Combemal et Anne-Cécile Orgerie. Vous êtes donc respectivement enseignant-chercheur à l'Université de Rennes et chercheuse du CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. Tous les deux membres de l'IRISA, l'Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires, qui se trouve être l'un des plus grands labos de recherche français dans le domaine de l'informatique et des nouvelles TIC, les technologies de l'information et de la communication. Vous coordonnez donc du lundi 5 au samedi 10 juin une semaine dédiée au numérique et au développement durable. Ça se passe à Rennes sur le campus Beaulieu avec une proposition, on l'a dit, en centre-ville. Pour plus d'informations et pour s'inscrire, il y a le site internet de l'événement ict4s23.org et puis aussi le site de la délégation bretonne du CNRS avec le programme en français, ce qui moi m'a bien aidé. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Fuck Houston, coup d'état, bruit noir est aux fraises, les deux bouffons ne viendront pas. 100 ans à eux deux, au compteur, produits périmés, obsolescence programmée, date de péremption enfoncée. À quelle heure tu raccroches, pépère, les pads encore appelés, t'es en retard. La sous-soupe est servie à 5 heures. Place à la jeunesse, les deux vieillards, place aux gourdins dans les slibards. Ça se prend pour Mick Jagger, mais ça schlingue le Guy Béard. Au PMU dans les années 80, avec leurs bananiers jaunis de gitane maïs, mais t'es la même vieille merde poulet. Morisset, c'est ton Johnny. Tu t'habilles pas en noir parce que t'es noir à l'intérieur. Boisis, tu t'habilles en noir parce que t'es gros. T'inquiète, à part ça t'as pas bougé, t'as juste flétri. Même coupe, même style, même t-shirt Stone Roses, t'as rien changé. Rien que ses poils dans les oreilles et le bide à bière qui dépasse de la veste. C'est pas avec tes nouvelles converses jeunistes qu'on cache son dentier. Vieux, 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 vieux. Pour te rappeler ta jeunesse de merde, tu parles d'une jeunesse sonique. Les enfants du rock sont gériatriques, toutes les smacks sentent la vieille couche. Moyenne d'âge senior, carte vermeille, pré-retraite, varice publique, de vieux bibliothécaires qui sentent le master dans la bouche. Les fonds de pantalon suinsointes, ça pogote Parkinson, ça chantouille Alzheimer. Je vais pas vous refaire le coup des frères Tandy. Euthanasie papy, euthanasie mamie, c'est pas votre calvaire, c'est le nôtre qui devrait être fini. Vieux, 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 vieux même, petit coup d'état de fiat. Bruit noir à prendre la main, petite merde, petite salope. Tu sais à quel point je l'emmerde ta jeunesse. Zombie décérébré, rongé de pulsions, JTA. 1000 ans qu'il n'y a personne pour prendre la relève. On laissera la place aux suivants, quand les suivants auront du talent. On n'a pas eu de public parce qu'on était trop grand pour lui. Vous n'aurez pas de public parce que vous resterez trop petit.
Coup d'état par Bruit Noir sur Canal B, c'est une nouveauté musicale qui a été repérée par notre programmateur Yann Barbotin et qui sera sur le prochain album de Bruit Noir. Le disque s'appelle 4/3 et sortira le 15 septembre chez Ici D'ailleurs. Bruit Noir, c'est un duo lancé en 2015, composé de Pascal Boisiz et Mitch Pires, deux des membres d'une autre formation, le groupe Mendelssohn. Vous écoutez Canal B sur le 94.0, peut-être en ligne sur canalb.fr. On passe au reportage du jour. Et pour le reportage du jour, je vous emmène au tribunal de Rennes, direction le 5e étage, pour rencontrer deux juges membres du syndicat de la magistrature qui alertent sur le caractère dégradé du service public de la justice ici en Ille-et-Vilaine, à travers une motion adoptée à l'unanimité par les magistrats du tribunal judiciaire de Rennes. Leur demande, c'est que l'ensemble des postes soient pourvus dans les plus brefs délais, également que l'augmentation de la population soit prise en considération dans les moyens alloués. Sinon, de plus en plus d'audiences devront être supprimés et des services fermés.
Donc là, on est au tribunal pour enfants, qui a 6 bureaux de magistrats, 6 bureaux de greffiers. Pour décrire aux gens, donc effectivement, on est sur une ambiance un peu marine, avec voilà, des murs qui sont bleus et des décorations qui évoquent, on va dire, le littoral breton. Le fait qu'on accueille des enfants, il y a un soin qui est apporté à l'accueil, de faire attention effectivement qu'il puisse avoir des coloriages, effectivement une salle de jeu avec des jeux un peu anciens quand même. Mais normalement on essaye de rénover, de tourner un peu, mais c'est vrai qu'effectivement on est sur, à l'image de la juridiction, un stock qui est un peu dégradé.
Alors bonjour, je m'appelle Étienne Kubica, je suis juge des enfants au tribunal judiciaire de Rennes et je suis par ailleurs délégué du syndicat de la magistrature.
Je m'appelle Ségolène Marquet, je suis juge au tribunal judiciaire de Rennes, affectée au service des affaires familiales et membre également du syndicat de la magistrature.
Alors un magistrat, il y en a deux catégories, les magistrats du siège et du parquet. Les magistrats du siège sont ceux qui prennent des décisions au terme de jugement après avoir auditionné et écouté les parties. Les magistrats du parquet sont en charge de l'action publique, donc contrairement aux magistrats du siège, eux, il leur revient effectivement d'orienter les procédures pour qu'elles soient jugées. Alors, le syndicat de la magistrature est une des organisations professionnelles de magistrats. Ce n'est pas l'organisation majoritaire. L'organisation majoritaire est l'Union syndicale des magistrats qui correspond à peu près aux deux tiers du corps. L'autre deux tiers du corps, effectivement, lors des élections professionnelles, vote pour le syndicat de la magistrature. À la différence de l'USM qui se positionne comme étant apolitique, le syndicat de la magistrature est considéré comme une organisation syndicale de gauche.
Avant d'arriver à la motion là, dont on va parler, une motion d'alerte sur l'état de la justice ici en Ille-et-Vilaine, dire qu'il y a déjà un précédent et peut-être vous demander si vous avez toujours, vous, connu finalement le département en difficulté quand on parle de justice.
Alors sur les précédents, les motions sont régulièrement adoptées en Assemblée Générale par les différentes juridictions. Donc là, la dernière motion qui avait été adoptée en Ille-et-Vilaine date de 2021 suite à un mouvement d'ampleur après la publication d'une tribune dans laquelle l'ensemble du corps a dénoncé le fait d'être en permanence sous le chronomètre pour rendre des décisions. En Ille-et-Vilaine, je pense que, voilà, moi je suis arrivée récemment, donc je ne peux pas parler d'une dégradation. Après, je peux faire une comparaison par rapport aux juridictions du nord de la France qui sont à peu près dans la même situation.
La particularité en Ille-et-Vilaine et en Bretagne de manière générale, ouais, c'est que les affectations de magistrats ont très peu évolué au cours des 40 dernières années. Sauf que la population dans l'ouest de la France, et notamment en Bretagne, c'est considérablement accru depuis 30 ou 40 ans. Hein. Je pense qu'effectivement, tous les Rennais voient que effectivement, la ville a quand même cru. C'est la même chose à Nantes, alors qui fait partie de la cour d'appel de Rennes, parce que la cartographie judiciaire et correspond à la Bretagne historique. Et effectivement, ça se traduit par le fait qu'effectivement, le nombre de magistrats, le nombre d'agents de greffe est notamment insuffisant pour répondre aux besoins de la population.
Ça veut dire que le nombre de magistrats n'est pas proportionnel à la population, c'est pas réfléchi
non,
comme ça.
C'est pas réfléchi, effectivement, les affectations de poste ne sont pas liées effectivement aux affectations de population.
On est actuellement donc à Rennes, une juridiction composée de 50 magistrats pour 924 946 habitants, un ratio de 5,4 juges pour 100 000 habitants, alors que les autres tribunaux judiciaires en France métropolitaine, le ratio est de 8,79 pour 100 000 habitants. Et alors, si on parle du Conseil de l'Europe, en Europe, c'est 22,2 juges pour 100 000 habitants.
Donc là, on se retrouve avec une motion votée le 23 mai dernier. L'un des éléments principaux, c'est qu'il y a des postes non pourvus. C'est sans doute l'urgence. C'est dans quelle proportion et puis de quel poste on parle ?
Alors, en l'état, effectivement, je vous parle effectivement dans l'attente effectivement des affectations complémentaires de postes qui pourront être réalisées jusqu'au 8 juin. Si effectivement la situation reste en l'état, il y aura des postes vacants au tribunal pour enfants et dans d'autres fonctions, notamment l'instruction et sur le service général du tribunal.
Le ministère va tenir compte, en fait, va dire que nous sommes au complet, mais sans tenir compte des éventuels temps partiels qui parfois s'imposent, en fait, pour diverses raisons, aux magistrats. Donc, ils vont considérer que nous sommes complets, selon des chiffres qui se basent quand même sur un ratio déjà insuffisant, alors même qu'on est dans certains services, certains collègues, parfois à 50% d'un temps plein. Et ça, ils n'en tiennent absolument pas compte et ils considèrent qu'on est à plein et ça doit reposer sur les autres et donc forcément dégrader les délais. Enfin, ça a des répercussions sur tous les services.
On peut prendre juste un exemple. Hein. On en parlait auparavant, le service de l'instruction. Le service de l'instruction à Rennes, c'est 7 magistrats, 4 au droit commun, 3 à la juridiction interrégionale pour la criminalité organisée. Donc c'est-à-dire que Rennes est compétent pour toute la criminalité organisée d'une grande partie de l'ouest de la France. Rennes est également compétent pour toutes les infractions commises par des militaires de l'ouest de la France, notamment par exemple sur des questions de violence policière, d'ailleurs que les faits sont reprochés à des gendarmes. Les juges d'instruction rennais traitent en droit commun 230 dossiers. Le seuil d'alerte qui a été élaboré par la chancellerie est un seuil d'alerte de 71 dossiers. C'est-à-dire que, déjà de fait, les juges d'instruction font presque le métier de deux magistrats. Et ça se traduit, pour les justiciables, hein, pour les personnes qui sont mises en cause ou pour les personnes qui sont victimes, par des délais de traitement extrêmement longs, extrêmement importants, qui leur donnent effectivement l'impression que la justice n'est pas rendue.
C'est un moment clé qui se joue au moment de l'instruction. Est-ce qu'on peut définir ce terme ?
L'instruction, c'est la forme procédurale qui concerne les crimes et les délits complexes. La loi impose qu'effectivement, en présence de crimes, il y ait une ouverture de l'information judiciaire et que l'enquête soit confiée à un magistrat indépendant, le juge d'instruction.
Non, mais c'est vrai, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on agit ou qu'on va sur le parvis pour aller tout, on sort un peu de notre guidon, là, et puis du coup, on se côtoie, du coup, on sourit. Tout c'est bien sur les photos, on sourit et tout, mais c'est pas du tout le reflet.
On rigole, mais c'est pas drôle.
Peut-être pour rester un peu dans le domaine que vous connaissez bien, sur le service du tribunal pour enfants, il y a donc 6 juges des enfants dont vous faites partie avec un poste bientôt vacant. Et je lis, le nombre de dossiers moyens par cabinet, c'est plus de 500 mesures d'assistance éducative. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette justice des enfants qui a un impact direct sur ce public qui est fragile ?
Alors, on parle de 500 dossiers en assistance éducative en moyenne, c'est un peu plus. Ça ne veut pas dire 500 enfants. En l'état, par exemple, dans mon cabinet, il y a 1300 enfants qui font l'objet de mesures d'assistance éducative. Les mesures d'assistance éducative se regroupent en deux grandes parties. Les mesures de placement, c'est-à-dire lorsque la collectivité prend en charge l'éducation et le relèvement éducatif de mineurs, lorsque les parents, effectivement, du fait de leur fragilité, du fait également de carences effectives ou du fait d'actes de maltraitance, ne sont pas en capacité de répondre aux besoins fondamentaux des enfants. L'autre volet, ce sont les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert qui s'appellent des MEP sur le département d'Ille-et-Vilaine et qui consistent dans un soutien éducatif à partir du domicile des parents et qui ont pour objet de donner des conseils, des recommandations pour les aider à remédier à une situation de danger.
Ça veut dire quoi que les juges des enfants sont donc dans la situation de ne pas pouvoir convoquer toutes les situations qu'ils nécessiteraient ? Ça veut dire qu'il y a des placements qui n'ont pas lieu, des dossiers qui sont du coup mis en bas de pile
C'est-à-dire que normalement, le principe quand effectivement on est face à des audiences qui concernent vraiment la vie privée, qui concernent effectivement, je pense, de ce qu'il y a de plus précieux, hein. Je pense qu'il faut se mettre à la place de tout à chacun de savoir qu'après une audience, potentiellement, bah, nos enfants ne dormiront plus avec nous, ne seront plus également dans le même lieu, que dans ces audiences avec des enjeux extrêmement importants, on peut avoir effectivement des débats, bah, soit qui sont extrêmement différés, soit des débats qui n'ont pas lieu parce que les décisions sont prises sans audience.
Cette motion-là et puis ce communiqué que vous adressez notamment aux médias pour alerter, ça permet un peu de découvrir tous les services de la justice, du service de l'instruction, la cité, au service d'application des peines, en passant par le service du tribunal pour enfants, mais aussi le service du contentieux de la protection, le service civil, le service correctionnel et le service du juge des libertés et de la détention. Pour continuer à dégager des éléments importants, ce sous-dimensionnement au niveau des équipes a un impact en fait sur les délais de convocation, sur les délais de traitement, tout est plus long, mais dans des proportions qui peuvent surprendre le public. Quand on parle de plusieurs années dans la criminalité organisée, ça questionne vraiment sur le sens qu'on donne à la peine.
Oui, qu'on donne à la peine, l'importance qu'on accorde à ces affaires qui sont complexes et dont les enjeux sont importants, puisque quel sens donner donc à un jugement plus de 7 ans après que le dossier soit en état d'être jugé? C'est même pas après les faits, c'est quand le dossier est en état d'être jugé. Sur la justice du quotidien, quel sens donner à une comparution devant le tribunal plus de 16 mois après les faits pour une victime et pour un auteur? Ça peut également être le cas si la situation venait à nouveau à se dégrader pour les affaires familiales, quand il y a encore peu de temps, on était à un délai d'un an pour passer devant le juge aux affaires familiales et décider de la résidence d'un enfant.
Il y a quand même des ponts entre le champ de la justice et le champ de la santé, aujourd'hui aussi avec celui de l'éducation. Je voulais vous demander si, comme dans le secteur de la santé ou l'éducation, il pouvait y avoir un mal-être du côté des professionnels.
Je pense que la souffrance au travail auquel on est confronté, elle se pose dans des termes assez proches par tous les agents du service public, par les agents effectivement de la fonction publique hospitalière, mais également, pour exemple, hein, pour être en charge de ce contentieux-là, également des professionnels de la protection de l'enfance. Je parle effectivement de difficultés à assurer un cadre respectueux pour les mineurs et les familles. Là, en l'état, en Ille-et-Vilaine, il y a à peu près 300 mesures de placement qui ne sont pas exécutées sur les 3000, c'est-à-dire presque 10% des décisions judiciaires qui ne sont pas exécutées. Il faut se mettre à la place des familles qui se demandent effectivement quel est le sens de cette justice, qui a dit effectivement qu'il y avait une mesure extrêmement grave et qu'il fallait assurer une protection pour l'enfant et dont la protection vient dans un délai plus qu'indéterminé. Pour les professionnels qui sont en charge de mettre une mesure qui n'est pas exécutée, donc qui n'a pas de sens, et également pour le magistrat qui ne peut constater que la vacuité de son office.
Pour bien comprendre, on parle bien de moyens qui manquent, de postes qui ne sont pas comblés et pas de métiers au pluriel qui n'attirent plus les candidats dans votre secteur.
Je pense qu'il faut faire une distinction. C'est vrai que pour le concours de la magistrature, il y a toujours des candidats et il n'y a pas de difficulté de recrutement sur ce point-là. Après, l'une des difficultés, c'est que former un magistrat, ça prend du temps. Et qu'après, entre les annonces et la réalité concrète du terrain, il y a plusieurs années qui vont se dérouler. Pour les professions de greffe, et pour les agents de greffe, on est face à une crise qui est peut-être beaucoup plus importante, qui est plus prégnante. C'est une profession, effectivement, qui exprime un mal-être important. Où est-ce qu'il y a des démissions? Où est-ce qu'il y a beaucoup, effectivement, de volonté, effectivement, de changer d'administration, d'affectation? Parce qu'il y a un manque de reconnaissance des compétences, parce qu'il y a un manque de valorisation, effectivement, de leurs tâches, de leurs fonctions et de leur office, qui est pourtant indispensable.
Une décision d'un magistrat sans un greffier n'est pas une décision judiciaire. Le greffier met en forme et prépare tous les dossiers, prépare également et accompagne la rédaction des jugements, est présent à chaque audience, est souvent le premier interlocuteur des personnes quand elles contactent le tribunal. Et finalement, c'est un peu comme une courroie de transmission dans une juridiction. C'est un rôle essentiel.
Et en termes de matériel, est-ce que vous êtes bien équipé?
Le matériel informatique, c'est une catastrophe.
Qu'est-ce qu'on fait des dernières annonces du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti? Le mois dernier, il a annoncé des recrutements de personnel, plus 60% de budget. Quand on a le chiffre comme ça, ça paraît énorme. Il y a quoi derrière ces annonces?
Alors déjà, il faut déjà voir d'où on part. Et on part vraiment de très très bas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une augmentation de 60%, mais comparé aux besoins et comparé à l'état que certains gardes des Sceaux avaient qualifié de clochardisation de la justice, ça donne effectivement peut-être la possibilité de reprendre un peu pied, mais ça ne permet pas effectivement d'assurer pleinement ses missions. D'autre part, sur les 60%, il faut faire une distinction entre les moyens qui vont véritablement être alloués aux tribunaux. Il y a déjà une grande partie de 60% qui vont être affectés à l'administration pénitentiaire, effectivement pour la construction de nouvelles places de prison en grande partie. Et sur effectivement le reste de ces 30%, il y a une affectation qui ne correspond pas effectivement à ce qui permettrait de remédier à la demande de justice de nos concitoyens. Avec ce risque qu'effectivement, il n'y a plus de possibilité de traiter les litiges par un tiers, que les gens trouvent d'autres moyens pour résoudre leurs difficultés. Hein. Des fois, ça peut être heureux, hein. Notamment effectivement lorsqu'on arrive à développer un certain nombre de mesures de médiation ou autre. Mais dans d'autres aspects, ça peut permettre effectivement la commission de violence ou la commission d'éléments où c'est la loi du plus fort qui règne. Les situations de violence au tribunal pour enfants, ça se déroule assez régulièrement, effectivement, des gens, vu les conditions. Alors déjà, parce que aussi, il faut préciser, on a des situations qui sont déjà extrêmement stressantes et déjà émotionnellement très difficiles, mais c'est vrai qu'effectivement, le cadre d'accueil, le cadre, effectivement, de prise de décision peut accroître cette nervosité qui est parfaitement entendable à l'égard de personnes dont le sort de leurs enfants est en jeu.
Avec forcément, et ça concerne vraiment tous les contentieux, une capacité d'écoute qui diminue, puisque forcément, quand on n'est pas assez nombreux et que le stock augmente et que notre capacité de jugement diminue, on a tendance à passer à accorder moins de temps aux gens, moins de temps d'écoute. Donc forcément, ça augmente la frustration que les personnes ressentent face à la justice qui est lente, toutes les critiques qu'on entend régulièrement.
Peut-être terminant en vous demandant comment vous analysez ces choix politiques, puisque ce sont des choix.
Je pense qu'il y a des effets de communication et il y a un effet de priorité effectivement du gouvernement de privilégier, on va dire, une forme de réponse pénale. On voit effectivement par exemple sur les affectations de postes et de moyens récents où la priorité qui a été donnée par la chancellerie a été effectivement de doter les juridictions qui seront amenées à traiter du contentieux pénal pendant les Jeux Olympiques. Plutôt effectivement en région parisienne, effectivement sur les juridictions de la couronne, pour effectivement permettre un traitement rapide des infractions qui peuvent être commises avant et après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de rugby. Il y a des affectations de poste conséquentes qui ont été accordées. Donc c'est un choix politique.
bit you on the waist. I mean, I have no time to wait. Back in Dallas, though. And I'm busy getting this way. I could have been there yesterday. There ain't nothing left to say.
Alice par Son Little, un morceau à retrouver sur l'album Things I Forgot, sorti en 2014 chez Anti Records. Et derrière ce nom, Son Little, eh bien on retrouve Aaron Livingston, un musicien américain de R&B qui est né en Californie et qui a aujourd'hui 3 albums à son actif. Vous êtes dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Je le dis régulièrement, si vous avez une action ou un événement bien précis à annoncer aux auditeurs, que ce soit avec votre association ou autre type de structure, tant que ce n'est pas purement lucratif, vous pouvez m'en informer par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Et puis je reprends contact avec vous pour vous proposer de venir ici en studio pour une interview, pourquoi pas de vous rencontrer sur le terrain pour un reportage ou bien d'annoncer cette info sous forme de recommandation. Et tiens, d'ailleurs, c'est l'heure. Chaque jour, en fin d'émission, on termine avec une recommandation, des recommandations de choses à écouter, à faire, souvent à vivre en tout cas. Là, on prend quelques jours d'avance pour annoncer la fête d'anniversaire de l'épicerie coopérative Brésicop, qui fête donc ses 4 ans cette année. Derrière cette épicerie, on retrouve l'association Brésipot, qui a lancé en 2019 son épicerie un petit peu particulière dans le quartier du Blône. Elle est coopérative, ça veut donc dire que les membres sont copropriétaires de l'épicerie. Ils sont près de 600 coopérateurs aujourd'hui à donner, c'est le principe, 3 heures de leur temps chaque mois pour faire tourner la boutique. En 4 ans, Brésicop a développé des liens avec une dizaine de grossistes et environ 60 producteurs en direct pour proposer 7000 références en rayon. 2 salariés viennent aujourd'hui compléter l'équipe pour gérer l'approvisionnement, une partie de la comptabilité et puis le suivi de l'hygiène. Pour fêter cet anniversaire, rendez-vous d'abord mardi 6 juin à 20h15 au cinéma L'Arvor à Rennes pour une projection débat d'un documentaire sur la première épicerie de ce genre, épicerie participative, qui s'appelle Park Slope Food, c'est son nom, une épicerie créée à New York en 1973. Second temps fort, ce sera jeudi 8 juin à partir de 18h, avec cette fois au programme une visite des lieux, qui est donc située avenue de Pologne à Rennes, mais aussi au programme de la soirée, un apéritif participatif et puis une prestation de la chorale de l'association. Pour plus d'infos, il y a les réseaux sociaux et puis le site brésicop.fr.
When I talk to people starting co-ops, I say, well, you want there to be a lot of excitement about your co-op when you start it, but what you're really doing is you're building a connection. And if you succeed in getting people to feel connected to their co-op that they own, the stronger you can make that connection, the stronger your co-op will be.
Rennes, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.